On avait envie, Xavier Moyaplana, de te faire un peu réagir sur cette question de la psychothérapie institutionnelle et peut-être pour commencer que tu puisses un peu te présenter, nous expliquer où tu travailles et puis comment tu définirais la psychothérapie institutionnelle.
Bon, en tout cas, j'ai des formations, hein. Je suis psychologue, clinicien, psychanalyste et directeur depuis une vingtaine d'années de différentes institutions. Je reçois ici à l'hôpital de Jouépi, où je suis co-directeur, je suis directeur technique administratif avec le docteur Olivier Ginoux, qui est son directeur médical. Je suis en France depuis 1976, et depuis 1976, j'ai toujours travaillé dans des institutions, des hôpitaux de jour pour adolescents, des instituts médico-éducatifs, des foyers d'hébergement pour des malades mentaux. Donc j'ai toujours travaillé dans l'institution et ça a toujours été pour moi un lieu de réflexion et d'actualité, une actualité qui dure depuis plus de 35 ans maintenant. La question de la psychothérapie institutionnelle, c'est vrai qu'elle revient avec cette question-là, comme à la grande surprise, a été déclarée non consensuelle. La première chose, ça m'étonnerait que la HAS sache ce que c'est la psychothérapie institutionnelle. Parce qu'ils ont fait un amalgame entre la psychanalyse et tout ce qui est soins institutionnels. Et ça me paraît important déjà de faire la différence. La psychothérapie institutionnelle, ce n'est pas n'importe quel soin institutionnel. C'est un soin, comme j'ai dit, c'est une appellation d'origine extrêmement contrôlée. Par contre, quand ils déclarent la psychothérapie institutionnelle non consensuelle, les fondateurs de ce courant, ils sont très contents. Parce que justement, Tosqueyes, Uri, Thomaison et d'autres, ils disaient que justement, la psychothérapie institutionnelle était forcément non consensuelle. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait y avoir des psychothérapies institutionnelles qu'à partir d'un non-consensus et du travail que ça suppose, le fait de ne pas être d'accord, que tout le monde, qu'on ne soit pas tous consensuels. Donc ils seraient ravis, même si le non-consensuel de l'autorité de santé en 2012, c'est par rapport à tout ce qui a été écrit des références aux pratiques. Oui. Par contre, malheureusement, ça n'a rien à voir avec ce non-consensuel des années 50 et des années 80. Ce qui me paraît intéressant au niveau historique, c'est parce qu'on dit toujours, quand on prononce ce mot-là, on dit, oh là là, ça y est, ça sont des vieilleries, c'est le passé. Oui. C'était les Trente Glorieuses, c'était je ne sais pas quoi d'autre. C'est passé, c'est révolu. Hein. C'est vrai que l'histoire, c'est une histoire. La psychothérapie institutionnelle naît d'une rencontre très particulière. C'est la fin de la guerre civile espagnole. Tosqueyes, il arrive en France pour ne pas tuer en Espagne, et en cherchant asile. Hein. Donc il trouve d'abord un asile, entre guillemets, dans les camps de concentration de cette fond, dans le sud de la France. Et après, parce qu'il était médecin, il est appelé, il se retrouve dans un autre asile, cette fois-ci à l'hôpital psychiatrique Saint-Alban. Et lui, il tenait beaucoup au mot asile. Hein, c'était Tosqueyes, ça, à cette époque-là, parce que donner asile à quelqu'un, ça voulait dire, à ce moment-là, donner asile à quelqu'un qui est persécuté, hein, qui risque sa vie, c'est donner asile à des personnes souffrantes psychiquement, c'est donner asile à Saint-Alban à des gens qui étaient poursuivis, résistants, donner asile à Paul Éluard, donner asile à Georges Canguilhem, et à Saint-Alban, il y avait des étages où il y avait beaucoup de gens asilés. Et je pense que c'est très important, dans un grand moment de barbarie humaine, hein, d'une guerre civile, donc on connaît ce qui s'est passé. Il y a après une deuxième guerre mondiale, il y avait la barbarie. C'était la première fois que l'humanité, au nom de principes de guerre, on s'entraînait au civil. Jusqu'à maintenant, il y avait quelques règles qui faisaient que les soldats s'entretuaient, des règles militaires, des règles de guerre. Mais la Deuxième Guerre mondiale a inventé d'abord en Espagne, la Guernica, c'est-à-dire on a bombardé une ville, on a tué des civils pour faire plier l'ennemi. C'était une grande première. Et ça continue après, bien sûr, ça fait école. Donc, c'est cette rencontre-là qui fait qu'il y a des médecins, des intellectuels, des malades, qui se rencontrent à Saint-Alban. C'est un moment, c'est un lieu, Ça me paraît très très important parce que je continue à penser que le soin institutionnel, la psychothérapie institutionnelle, en 2012, là où je vous reçois aujourd'hui, c'est toujours le fruit d'une rencontre, dans un lieu, dans un temps, entre personnes. Mais là, c'est un moment particulier où des questions de toutes sortes, des questions d'abord de survie à la barbarie humaine, mais survie à la famine. Il ne faut pas oublier que dans ces années-là, en France, il y a eu 40 000 malades mentaux morts de faim. 40 000, maintenant on les connaît, hein, le chiffre. À Saint-Alban, il y en a eu zéro. Saint-Alban, c'était malades mentaux, mais il y avait aussi des résistants, de philosophes, des poètes. Et qu'on soit schizophrène, qu'on soit poète, on a besoin de manger. Donc ils partaient, ils sortaient aller chercher la nourriture dans les champs. Ils partageaient la famine avec les paysans tout autour. Du coup, les paysans que depuis des années, pour aller au marché une fois par semaine, il fallait qu'ils contournent l'hôpital psychiatrique, ils le faisaient un long détour de quelques kilomètres, ils ont ouvert les portes, ils passaient à travers l'hôpital psychiatrique, ce qui leur faisait un raccourci incroyable. Et tout en passant, ils rencontraient les gens, ils se parlaient, hein, ils échangeaient le fameux art brut, hein, que maintenant il est devenu quelque chose de très intellectualisé. C'était des choses qui faisaient les gens qui étaient à Saint-Alban, et les paysans, en passant dans le marché, ils voyaient des objets qui leur plaisaient, il les a échangés contre de la nourriture. C'est cette rencontre-là qui a fait qu'on avait une personne qui souffrait de schizophrénie. On avait Paul Éluard, c'est un homme qui avait toujours froid. Alors Tosquelles disait, il m'a raconté que quand il était petit, il était né, était un bébé toujours très frileux, et sa mère l'enveloppait avec des linges chauds. On est ben, quel scandale actuellement.
Quel scandale, ils ont pas aujourd'hui
ça. Ouais. Voilà. Le gouvernement des Paul Éluard, voyez, était déjà non consensuel, voire même non recommandé. Et il disait, et Paul Éluard, par rapport au froid qu'il faisait à Saint-Alban, il se réchauffait des paroles. Il disait, Tosquelles, voilà, les poésies, à fin des comptes, la poésie des Paul Éluard, c'était des tentatives de se réchauffer avec des paroles, faute d'avoir des linges chauds. Hein. Et c'est ça, c'est cette question-là qui a fait qu'on ne pouvait plus, enfermer les gens, que ce soit parce qu'il y a eu les camps, il y a eu cette rencontre historique, c'est quand on ou un grand moment d'humanisme partagé, parce qu'on a toujours l'impression que l'humanisme, c'est toujours, ça va dans un sens. Là, c'était quelque chose de vraiment tout à fait partagé, et c'est ce qui a donné cette origine à la psychothérapie institutionnelle, à des soins où l'essentiel, ce n'est pas oublié en ce instant qu'on a affaire à des personnes humaines. Et avec le danger, ces gens-là, ils l'ont pointé au point que dans la notion du soin, il y a quelque chose qui peut arriver d'une façon sans s'en rendre compte, c'est la déshumanisation. Mais là, je vous parle des 40 et quelques, il y a 2 ans, avec Martine Armand, on anime au COPES, un groupe de réflexion sur les soins institutionnels. Il y avait Roger Mises. Maintenant, il est disparu, hein, il est décédé, Roger Mises. Et il venait toujours participer avec nous, travailler avec nous une demi-journée, une après-midi. Et Roger Mises, la dernière fois qu'il est venu, il nous a parlé bien sûr du 7TP, il nous a parlé de l'intersecteur, il nous a parlé de la nécessité de travailler avec les enfants, avec leur famille, dans un milieu qui soit le leur, un milieu humain, c'est-à-dire un milieu ouvert, dans la cité. Mais à la fin, je n'oublierai jamais, il regarde les quelques stagiaires en formation, il dit, à fin des comptes, je m'aperçois que toute ma vie, j'ai qu'une idée en tête, comment rester humain dans la question de soins psy. Et voilà, vous voyez, c'est 2010, Tosquelles, Domaison, Henriet, Paul Éluard, Georges Canguilhem, et tous les gens qui étaient avec eux, 1940 et quelques, vous voyez. Il y a entre les deux, voilà, je pense que la psychothérapie institutionnelle n'a pas cessé de travailler cette question. Et à mon avis, cette question, elle est liée à l'humain. Elle est liée à l'humain, il est lié aussi à la pathologie dite psychotique. Les questions avec lesquelles, autant Jean Houry, que Tosquelles, que d'autres cliniciens, on a posé toujours, qu'est-ce que vous avez à nous dire du transfert psychotique? C'est toujours la fameuse question, c'est pas le serpent de mer. Hein, ça paraît, ça disparaît. est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas. Il y avait des véritables scissions entre les gens qui disaient que ça n'existait pas, et d'autres disaient que ça existait. Et à cette réponse-là, la psychothérapie institutionnelle a toujours répondu en quelque sorte, parler de ce lien d'humanisation, pas humanitaire. Ça amenait la question de, je ne sais pas si la personne que je dépsychose transfère, mais en tout cas je sais que je transfère très fortement sur elle, et qu'on transfère beaucoup entre nous soignants concernant cette personne. Ça nous suffit pour travailler, après... Il y a des tas de gens qui ont travaillé cette question, ils disent, mais oui, il y a un transfert, mais un transfert particulier. Hein. Mais ce qui est important, c'est, en tout cas, cette personne-là, quand il faut prendre une décision, ça nous fait des choses, ça nous oblige à travailler. Je pense, avant-hier, j'ai dit, ici, à l'EPI, nous avons notre réunion institutionnelle. Alors, c'est quoi cette réunion institutionnelle? C'est une réunion qui réunit tous les enfants, tous les membres de l'équipe, je dis tous les membres de l'équipe, avec la cuisine, on est tous là. Et on parle de ce qui nous paraît important, hein, au moment où on se réunit. Bon, là, on a parlé, il va y avoir Noël bientôt, ce qu'ils avaient des idées, comment on allait décorer, vous avez vu les effets, comment on a décoré l'hôpital de jour. Et on parle d'un enfant qui est parti. Alors, les enfants nous disent, mais où est-il passé? Pourquoi il est parti? On n'y a pas dit au revoir. On discute. Et on lui dit qu'on y travaillait, il y a Olivier Ginoux, c'est le directeur, dit aux enfants, répond, il dit, vous savez, avec M. Moyapana, on est en train de parler avec les parents de cet enfant-là, en leur disant qu'on souhaiterait qu'il vienne nous rencontrer pour que lui puisse dire au revoir à l'EPI, dire au revoir aux enfants, et qu'on puisse prononcer la sortie. Aussitôt, un enfant prend la parole, il dit à Olivier Ginoux, attendez, vous êtes le médecin directeur et vous dites que vous espérez. Ben oui, donc vous n'êtes pas sûr. Ben non. Hein, voilà. Ouais. Donc je me mets à discuter, comment est-il possible qu'un médecin directeur puisse espérer ne pas être sûr? On espère, oui. Et c'est cette question-là, je pense que c'est une vérité de la psychothérapie institutionnelle, c'est celle-là. C'est-à-dire, comment faire que les enfants, ben, et puis les adolescents ailleurs, ou les adultes, puissent être vraiment sujets dans les soins et dans le lieu de soins où ils sont soignés. Et cette question d'être sujet, l'éthique du sujet, c'est une véritable tarte à la crème. Hein, c'est-à-dire, on la resserre constamment, on resserre l'éthique du sujet, c'est le sujet. Mais à fin des comptes, c'est une véritable question qui demande énormément de réflexion et de travail. Hein, et c'est pas du tout... Vous n'avez pas ce qu'on dit maintenant dans cette tentative pour nous. Pour certifier qu'on est des bons soignants, où le sujet est au centre, et en plus on l'appelle usager, ce qui est un bilan signifiant. Nous, notre idée, c'est absolument pas mettre le sujet au centre. Le sujet, il se met là où il peut, dans un lien interactif avec quelque chose qui se passe. Ça me paraît important, parce que si je dis la psychothérapie institutionnelle, depuis 1940, nous dit que tout soin, comme tout humain, marche aux deux jambes. Alors, si je vous dis, pour les deux jambes, à cette époque-là, 1940, c'était Freud et Marx. Ils étaient porteurs de cette question-là, de que c'est important qu'un enfant, aussi psychotique soit-il, puisse à un moment donné, concernant une question des fonctionnements institutionnels, c'est la sortie d'un enfant, avoir son mot à dire, et pouvoir dire au médecin directeur ou à n'importe quel membre de l'équipe, et que ceux que même dans l'équipe disent, tiens, ta question est importante, et je mets à travailler ensemble. Et que nous pensons que c'est ça qui est soignant, et ces deux jambes de 1940, elle continue d'être importante là. La question des liens, pour moi, l'aliénation, c'est la déliaison. Hein. On est aliéné quand on est délié, quand on n'est plus en lien, ni avec soi-même, ni avec nos semblables. Et la mise en lien, c'est ce que la psychothérapie institutionnelle a toujours tenté de ramener au centre du soin, c'est la mise en lien. Et si je continue, parce que c'est drôle, c'était avant-hier, cette réunion institutionnelle, on avance un peu. Et il y avait un enfant qui disait, on reçoit ici un journal que le monde fait pour les enfants et pour les adolescents. Et on se sentait très inquiet. La psychologue institutionnelle la garde, il dit, tiens, qu'est-ce que tu lis là? Et le temps de regarder, l'histoire, vous savez que selon les Mayas, la fin du monde c'est le 21. Et alors cet enfant-là, on lui donne la parole par rapport à cette question, il commence à lire, qu'est-ce qu'on en pensait? On parle de l'histoire de la fin du monde, sachant que ces enfants-là, l'angoisse fin du monde, ils la connaissent depuis qu'ils sont nés. Hein? De temps en temps, il y a les Mayas ou Nostradamus qui viennent fou. Comme ça, on la partage avec eux. Et à un moment donné, je m'aperçois qu'ici, on ferme l'hôpital de jour pour les vacances, c'est le 21 aussi. Et je leur dis, bah, vous savez, c'est le vendredi 21, on ferme les pis, mais pas parce que c'est la fin du monde, parce qu'on va fêter Noël. Et tous les enfants, mais en même temps, c'était un grand moment de partage, d'une question. Est-ce qu'on est sûr qu'on va se revoir le 3 janvier? C'est cette question-là, et nous on travaille, c'est en sécurité, et bien sûr qu'on peut l'appeler la discontinuité relationnelle de la personne qui souffre des psychoses, bien entendu. Mais entre nous, à part l'HAS, qui voudrait qu'on soit à 100%, hein, ouais. Si je vous demande, vous tous les deux, vous êtes médecin, hein, si vous, est-ce que vous pouvez me certifier à 100% que je serai là, que je reviendrai ici le 3 janvier? Si vous me faites ce certificat-là, vous avez besoin de soins. Parce que vous ne pouvez pas.
Non, hein,
et je dois vivre.
Ouais. Avec cette...
Et je vais pouvoir désirer me projeter et dire aux enfants, on se verra le 3 janvier. Là, la question d'être en lien avec la cité, hein, est-ce qu'il nous entoure? Pour moi, il paraît important de la penser à différents niveaux. Quand j'ai des amis, des collègues de province qui viennent ici, ils arrivent, ils rentrent ici... Ils étouffent. Mm-hmm. C'est petit, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas un grand parc, il n'y a pas les grands arbres, il manque plein de choses. Et je leur dis, mais un hôpital de jour, c'est le lieu où il faut qu'il manque plein de choses pour qu'on aille les chercher à l'extérieur. Mm-hmm. Et puis, on a fait des enfants citadins. Les enfants, ils peuvent être souffrir de psychose, d'autisme, de dysharmonie, d'évolution, de tout ce que vous voulez. Ce sont des citadins. Donc, ce qui est important pour eux, qu'on travaille dans la ville. Donc, surtout, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait surtout, qu'il n'y ait pas tout à l'intérieur. Ce qui nous pousse à aller à l'extérieur, et on fait tout, hein, pour des manques de l'intérieur, aller chercher à l'extérieur. C'est quand même une des chances d'être à Paris. Il y a beaucoup d'inconvénients, mais c'est une chance que Paris offre quand même des tas de... Et ce qui veut dire, ça va depuis le goûter. Le pain, c'est les enfants qui vont acheter le pain. Et ils l'achètent chez les boulangers du coin. Ça peut paraître un détail, je pourrais me le faire livrer, le pain. Mais tous les jours, c'est les enfants qui vont acheter le pain. Et chaque enfant choisit sa boulangerie. Et ils sont connus. Et il y a des enfants qu'au début, ils y vont avec un membre de l'équipe. Après, ils y vont sans membre d'équipe, mais avec un autre enfant. Et après, ils y vont tout seuls. Et dans toutes les boulangeries du coin, on connaît, parce que c'est l'enfant qui arrive, il y en a qui ne parlent pas, mais ça ne fait rien. Ils arrivent avec un papier. Cette baguette, l'argent, donne l'argent, et ils s'en vont pas tant que le boulanger ne leur a pas donné le ticket, parce que s'ils arrivent ici, ils n'ont pas le ticket, bah, ils repartent chercher le ticket. Mais bon, ça peut être un niveau-là, tous les loisirs, les maisons de quartier. On travaille avec toutes les maisons de quartier. Il y a tout ce lien qui me paraît le plus important, parce que c'est, ça veut dire que les enfants qui sont ici, quelles que soient leurs difficultés, et ils ont des difficultés graves, ils ne sont pas moins des citoyens, des citadins. Ce qui est intéressant, Paris, quand on voit ce qu'on pourrait penser, c'est un vrai village. C'est-à-dire qu'on sait, les parents, quand maman vient chercher, ils disent « Ah, aujourd'hui, c'est ma fille qui a été jeter le pain, je le sais, la boulangère me l'a dit. » Donc, il y a un véritable réseau. L'école, on travaille beaucoup avec l'école. L'école à l'intérieur, on a des enseignants, mais aussi l'école à l'extérieur. On va énormément dans les musées, on va... Donc, pour moi, c'est le lien le plus important. C'est pas seulement la psychothérapie institutionnelle qui est mise à mal depuis quelque temps, c'est pas comme la psychanalyse, je pense que c'est la psychiatrie tout court. Ouais. Et l'hôpital psychiatrique, vous savez, les hôpitaux psychiatriques, j'y ai beaucoup travaillé quand j'étais étudiant, et j'avais été étonné qu'en fin de compte, personne ne va en sortir. Voilà. Et on y est bien. C'est fini les murs. Le danger, c'est pas à l'hôpital, c'est à l'extérieur. Donc c'est cette image de l'hôpital, ça m'est un lieu d'asile. Mais l'asile dans le sens toschkéen, de la psychothérapie institutionnelle. Hein, c'est vraiment... Donc, l'hôpital psychiatrique, pour moi, n'est absolument pas un lieu épouvantable. On avait envie de dire aux personnes qui étaient là responsables, pas aux parents. Les parents, un parent, c'est tellement douloureux d'avoir un enfant qui est malade. Il y avait des responsables, il y avait un secrétaire d'État. On avait envie de lui dire, mais, écoutez, venez nous voir. Hein, j'avais envie de lui dire, écoutez, voilà, nous on ouvre le lundi à vendredi entre 9h et 16h. Venez quand vous voulez. Venez voir, parce que c'est important. Après, chacun fait ce qu'il a à faire. Hein? Il y a pas... et c'est là où il y a peut-être un lien. Mais c'est un lien, ça a toujours été compliqué. Parce que je pense que les hôpitaux de jour ou la psychothérapie institutionnelle, elle est tellement proche et identifiée à sa tâche d'accompagner des personnes qui souffrent psychiquement, que du coup, en contrepartie, il y a toujours cette impression d'être méconnue. Il y a le même lien, je pense, entre la société et la psychothérapie sociale qu'entre la société et la folie. La folie, depuis toujours, dès qu'il y a eu de l'humain, il y a eu de la folie, mais entre l'être humain et la folie, il y a toujours eu une espèce de dialogue, on va dire, non consensuel. C'est-à-dire que, parce que c'est une question, il n'y a pas d'humain sans folie, et en même temps, c'est une question qui fait peur, qui questionne, et c'est aussi qui est important pour nous, tous les commerçants du quartier connaissent des enfants, et si vous leur demandez qu'est-ce qu'un enfant autiste, ou qu'est-ce qu'un enfant qui souffre des psychoses, ils pourront vous en dire quelque chose. Ah oui, je vois, il y en a un qui vient, il ne parle pas. Et il me donne mon papier, maintenant je ne lis même pas le papier, c'est que c'est cette baguette. Mais par contre, il compte les baguettes, il voit bien s'il y a cette baguette. Parce qu'ils savent compter, cet enfant. Voilà, la boulangère peut me dire ça, oui, ben bien sûr. Parce qu'il y en a un autre qui parle, il y en a un autre qui me raconte des tas de choses. Qui me dit, voilà, achète des baguettes, il dit, mais comment tu t'appelles, appelle la boulangère. Et le monsieur qui dit, oui, le boulanger. Voilà. Et c'est vrai que ces personnes-là, du coup, la question de la folie dans le sens de l'expression d'une adaptation en point de souffrance, du coup, ils sont peut-être moins. En tout cas, c'est sûr qu'ils sont moins déliés que les autres qui n'entendent parler, qui ont peur parce qu'ils ne le connaissent pas, ou alors ils n'ont que des discours, des journaux autour des images terrifiantes des schizophrènes qui commettent des actes épouvantables, en sachant que dans la population des schizophrènes, il n'y a pas plus d'assassins que la population des citoyens normaux. Mais voilà, ces images-là, je pense que l'hôpital de jour est très important comme lieu pour pouvoir travailler avec la cité. Je reviens à la question des liens. C'est vrai qu'il y aura toujours quelque chose dans le lien, c'est toujours très énervant. Il y a 12 ans que je suis directeur d'hôpital de jour, il y a chaque fois qu'il y a un changement ministériel, en tant que membre de l'Association nationale des hôpitaux de jour, on les rencontre, ils disent les hôpitaux de jour, on ne connaît pas. À chaque fois, on ne connaît pas. Et on existe depuis quand même plus de 31 ans. Et c'est, ils pensent qu'ils ne connaissent pas, parce que ça passe par le fait de pouvoir dire qui nous sommes, comment nous travaillons, il appelle, ah bon. Non, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une vérité peut-être que la mise en lien, elle ne se fait jamais d'une fois pour toutes. C'est un chantier permanent et qu'on doit on doit l'envisager un peu comme ça. Et c'est pour ça que le mot aliénation que vous avez tout à l'heure, je le prends presque au pied de la lettre du mot, A privatif, aliénation, c'est-à-dire quelqu'un qui est en rupture de lien. Et le travail, notre travail à nous, c'est tisser des liens.
Comment tisser ces liens? Comment pouvoir justement essayer un petit peu de rétablir cette bipédie que tu décrivais tout à l'heure, qui était à l'origine de la psychothérapie institutionnelle?
Moi, j'ai répondu à ta question en veillant très soigneusement à que nos institutions, nos établissements, institutions, dans le meilleur des cas, ne se referment pas sur elles-mêmes. Mais cette question-là, je pense que peut-être c'est ça qui est difficile, parce que moi, ça fait penser à Pierre Deslions quand il dit, vous savez, ces enfants qu'on accueille, tous les matins, c'est un lendemain de guerre. C'est-à-dire, il y a eu un bombardement, vous sortez de chez vous, et vous voyez, et qu'il faut tout reconstruire. Et c'est ce travail-là qu'on fait dans les hôpitaux de jour, et qu'on fait dans beaucoup de lieux de soins. Et pendant longtemps, il va falloir accompagner ces enfants, ces adolescents, ces adultes, dans ces angoisses de fin du monde. C'est-à-dire, c'était la thèse de doctorat de Toscaille, c'était sur cette question-là, l'angoisse de fin du monde chez les patients. Donc on voit que c'est toujours une espèce d'éternel recommencement, en tout cas des reconstructions dans un premier temps, et ce qu'on s'aperçoit que cette reconstruction quotidienne, elle va de plus en plus vite, à fur et à mesure que le soin avance, et que l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte, moi je n'ai pas des enfants ici, ce travail de reconstruction tous les matins, quand les enfants arrivent ici, la porte s'ouvre 9h moins quart et elle se referme 9h30. Donc on les accueille pendant 3 quarts d'heure. Pendant 3 quarts d'heure, il y a les parents, il y a les enfants, il y a les ambulanciers, il y a les membres de l'équipe. Et on est en train de faire quoi? On est en train de reconstruire. Reconstruire, on a demandé, c'est reconstruire le lien. C'est-à-dire que quand ils arrivent, il faut qu'ils vérifient si on est vivant, si le lien est toujours là. Et il le vérifie en nous voyant, nous, avec les autres membres de l'équipe, c'est un temps d'accueil où les accueillants s'accueillent entre eux, les accueillis s'accueillent entre eux, les accueillants accueillent les accueillis, les parents qui viennent accompagner l'enfant accueillent les autres parents, ils discutent, tiens, là, vous m'aviez parlé voilà, c'est un véritable temps d'accueil, mais c'est un véritable temps de reconstruction, de, hop, et après, bon, on avait revenu, on ferme la porte, et l'activité commence. Avant de faire, ça, ça me paraît important, c'est Winnicott, que c'est un grand compagnon de route aussi, il disait que avant de demander à qui quoi que ce soit de faire, il faut qu'il puisse être. D'abord être, after to be, to do, disait Winnicott, et à fin des comptes, tous les matins, c'est ce travail-là. Et je pense, par rapport à ta question, Philippe, je pense que socialement, en quelque sorte, il y a à pouvoir faire ce travail-là, et que je ne pense pas qu'on puisse, si on devenait tout d'un coup consensuel, c'est-à-dire référer d'une façon claire, nette, c'est-à-dire comme d'une façon bah, comme on opère l'appendicite, et c'était référencé comme ça, à mon avis, on ne serait plus dans la psychothérapie institutionnelle. Il y a quelque chose dans référencement permanent, et du coup, ça ne peut pas... en tout cas, la bonne pratique, ça serait, soyez constamment en train de bâtir et bâtir vos références, hein, avec quand même pas mal de points fixes. Hein. C'est pas non plus... Parce que rebâtir une ville après un bombardement, on a quand même beaucoup de des gens qui ont écrit des tas de choses, hein, qui nous aident à rebâtir cette ville tous les matins. Hein. Ouais. Il y en a notre propre expérience, il y en a nos savoir-faire, il y en a une équipe pluridisciplinaire. C'est quand même une sacrée équipe hein, pour rebâtir une ville tous les matins. Hein. Donc, mais je pense que la question, le tout c'est, il y a les moments sociaux, il y a les moments de société qui supportent plus ou moins bien qu'il y ait des liens, des lieux qui soient non consensuels ou non référencés définitivement à un manuel des bonnes pratiques. Hein. Ouais. Ça c'est quelque chose, je pense qu'à l'époque actuelle... se caractérise par une certaine intransigeance à cet égard, hein, de pas avoir, d'être référencé d'une façon tout à fait consensuelle et transparente.
Comment est-ce que la psychothérapie institutionnelle pourrait rentrer dans cet espace-là? On a l'impression que c'est de l'ordre de l'impossible, finalement, en t'écoutant.
C'est une question très, très compliquée. C'est-à-dire que, parce qu'il ne s'agit pas d'évexer qui que ce soit, parce que je pense que la vérité vraie, personne ne l'a. Hein, bon. Mais c'est clair que je pense que ce que je suis en train de dire là, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui va faire qu'on soit certifié en tant que lieu de soins. Je reste prudent. Et ce qui me paraît important, ici, faire ce travail, on doit être certifié. On a à faire ce qu'on nous demande, on a apporté les éléments hein, pour être certifié, mais en même temps, en aucun cas, la question soignante pour nous, en aucun cas doit être... sommes-nous être certifiés ou ne pas être certifiés? Il y a quelques temps, j'en ai parlé à une journée du COPES récente, 20 octobre, sur raison de rester optimiste. J'ai raconté cette anecdote ici à l'hôpital de jour. Il y avait une fillette de 8 ans, me voit à la porte. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là, directeur? Il m'appelle directeur, il me tutoie, mais il m'appelle directeur. Qu'est-ce que tu fais là, directeur? Je dis, j'attends quelqu'un. Elle me regarde et il me dit, c'est quoi un quelqu'un? Voilà. Ben, je n'y avais pas pensé. Je lui dis, ben, je ne sais pas ce que c'est un quelqu'un, mais ce quelqu'un que j'attends, c'est un ami qui est directeur, comme moi. Il me dit, dis-moi, est-ce que je suis un quelqu'un? Cette fillette, elle me dit, est-ce que je suis un quelqu'un? Ben, j'ai dit, ben oui. Mais en même temps, je suis touché par le fait qu'elle, c'est une fillette qui souffre d'angoisse, de dépersonnalisation extrêmement forte, et pour elle, c'est une question... vrai, c'est-à-dire, c'est vital, pas une question, c'est mon fils, c'est vital, vital ouais. Exactement, c'est de vie ou de mort, c'est-à-dire, où je suis quelqu'un, ici, où je ne suis pas quelqu'un. Et je dis, bah oui, t'es, et en plus, elle disait, en quelqu'un, hein, est-ce que je suis en quelqu'un? Mais je commence à discuter le lien qu'on a, elle et moi. T'es ici à l'EPI, je connais tes parents, je sais qui est ton éducateur des références, t'es dans un groupe des plus jeunes. Je lui dis à cette fille, mais bon, tu me fais vraiment réfléchir. Elle me regarde, elle ouvre les grands yeux comme ça, elle me regarde. Il me dit, toi aussi, tu as à réfléchir, tu réfléchis toi aussi. Ben oui, il est étonné parce qu'ici, à l'hôpital de jour, quand un enfant transgresse un interdit important, on lui demande de réfléchir. Mais et alors, quand je dis qu'elle me, que je réfléchissais, elle se demandait la question, qu'est-ce que j'avais transgressé comme interdit. Oui. Peut-être qu'on était en train de transgresser cet interdit de penser, de penser ensemble des questions qui vaut mieux pas y penser. Cette fillette, dans ce travail-là, elle m'a fait penser à quelque chose. Qu'est-ce qu'un quelqu'un? Et la question, par cas, en fin de compte, on est un quelqu'un parce qu'on est quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Dit comme ça, ça paraît très simple. Un hôpital de jour, quand ça fonctionne bien, d'après ce que cette fille elle m'a appris, devrait être un lieu où on est quelqu'un. Alors, vous comprenez bien, quand la question être certifié ou ne pas être certifié, ou être en quelqu'un pour quelqu'un d'autre, ou être personne pour personne, il ne faut pas se tromper de dilemme. Hein? Pensant à Hamlet, notre dilemme à nous, ça c'est pas être certifié ou pas être certifié, notre dilemme à nous c'est, est-ce qu'on est en quelqu'un pour quelqu'un d'autre, ou personne pour personne. En même temps, l'hôpital de jour a besoin d'être certifié pour continuer à être un lieu où cette question de qu'est-ce qu'un quelqu'un puisse continuer à se poser. En tout cas, ici, on est un certain nombre de professionnels à essayer que ces deux questions, elles ne se superposent pas l'une à l'autre parce qu'elles parlent de choses radicalement différentes.
C'est ça,
oui. Oui, bon,
c'est-à-dire que c'est tout la question de la politique, que ce soit la position politique vis-à-vis des soins ou la politique de santé, et puis la question des soins. C'est-à-dire que toujours il n'y a pas toujours une convergence entre nos positions et les positions politiques par rapport à ce qu'on attend d'institutions comme celle-là.
Moi, vous savez, une autre question typique de la psychothérapie institutionnelle, c'est la question de la différence entre l'établissement et l'institution. Établissement, on est un établissement. C'est ce qui est établi. Établi pour tous. C'est-à-dire ici, il y a 20 et quelques enfants, de 20 et 25 en fonction du temps partiel. Et pour tous, il y a des choses établies. On est un hôpital de jour, de 6 ans à 14 ans, avec des habilitations et des agréments et des gens qui financent notre fonctionnement. Ça veut dire, chaque enfant, avec ses parents, dans la rencontre qu'il va faire de cet établissement, va créer son propre hôpital de jour. Parce que la rencontre qu'il va faire avec ses parents et les membres de l'équipe, elle va être unique. Et c'est ce qu'on appelle l'institution. Et ce qui est important, la différence entre l'établissement et l'institution, c'est que l'établissement sont des murs, l'institution sont des cadres et des contenants tout à fait symboliques où les personnes vont se rencontrer. Et ce cadre va leur garantir que cette rencontre, ce qui est décidé, puisse durer le temps nécessaire pour que l'état de cet enfant qu'on a accueilli puisse s'améliorer. Je pense que la politique de santé, quelle qu'elle soit, devrait plutôt nous garantir à niveau des contenants et pas à niveau des contenus. Parce que, à niveau de. Je trouve que tout gouvernement, quel qu'il soit, moi je suis né sous une dictature, et j'ai connu ce que c'est, un lieu où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a pas de république. Tout soin démocratique devrait porter, y veiller, que les citoyens veillent à garantir des espaces. Et attention, les espaces, c'est pas une espèce de bois, il y a un théorie, fais ce que tu veux. C'est bien, c'est des espaces symboliques, des espaces. Il y a des établissements, ce qui est établi, là c'est des garanties extrêmement. De la loi juridique, il en faut, extrêmement serré. Dans ces espaces juridiques, il y a des espaces symboliques.
De vrais tiers.
Des vrais tiers, et où chaque citoyen devrait pouvoir trouver un peu ce qu'il cherche et pourquoi il est venu dans cette rencontre avec, bien sûr, du personnel qualifié et formé pour accueillir cette demande. Et je pense que ce qui est peut-être difficile, donc, que ce soit par rapport à les questions actuelles, je ne vais même pas les nommer, parce que ça provoque énormément d'émotions, je le comprends. Un enfant qui souffre, comme peut souffrir un enfant autiste, ça apporte tellement d'émotions, on a tous différemment tellement envie de le soulager, que ça, c'est ça la vraie question. Après, les autres questions, à mon avis, sont moins importantes. Comment pouvoir garantir quelque chose du soin sans vouloir rentrer directement dans les contenus? Vous savez, ça me fait penser, ici, les enfants, quand ils vont mieux, ils disent, Hé, hey, directeur, il vient de t'insulter, tu lui as rien dit. Moi, quand je t'insulte, tu me mets dans le couloir à réfléchir. Il dit, oui, tu as raison. Mais quand tu es arrivé, tu te rappelles, il y a quelques années, si tu te rappelles pas, moi, je me rappelle, hein, ben, c'était pareil. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Vous voyez? Bon. Et donc, travaille cette question du pareil, du pas pareil, et une façon d'être à l'hôpital des jours, hein, les pis. Hein. Vous voyez bien que la question, là, si on voulait faire des règles, ou l'intérieur, c'est-à-dire quand on insulte, on serait à côté de la plaque, on serait plus soignant, parce que cet enfant-là, quand il est arrivé ici, les insultes qu'il disait, c'était vraiment de la légitime défense. Il avait tellement peur, d'ailleurs, c'est, même mon insulte n'avait aucun sens. Quelques années après, c'est très bien, hein, quand, voilà. Vous voyez ? Donc, on voit bien que c'est une question de ce contenu-là, et ce qui est important, c'est que le contenant, l'hôpital de jour, il puisse accepter et contenir le fait que oui, un enfant peut insulter le directeur, ou n'importe quel membre de l'équipe, un autre enfant ne peut pas. Et on ne va pas établir une règle, ni une grille, pour dire, hein, est-ce que c'est bien d'insulter ou pas insulter. Bien sûr que ce n'est pas bien d'insulter, mais ce n'est pas la question du bien ou du mal. Vous voyez ? Et je pense que si j'avais quelque chose à proposer de ma place à moi, c'est essayer de pouvoir réfléchir, parce que nous, on le fait tous les jours ici. Quand un enfant, cette même question peut arriver en réunion d'équipe. Il y a un collègue, il peut me dire, attends, Xavier, si tu te laisses insulter, c'est fichu, parce que là, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là ? On ne reste pas au niveau du contenu, on essaie de voir autour de cet enfant-là où il en est. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passe dans son groupe de référence, comment ça se passe à l'école, et s'apercevoir qu'ici il peut nous insulter, mais par contre à l'école il n'insulte pas. Mais on va essayer de construire autour de cet enfant, en étant contenant, ce qu'on appelle son projet individualisé, si vous voulez utiliser les mots, hein, mais individualisé, il faut aller jusqu'au bout de ce terme, de ce mot-là. Hein.
La singularité.
Ouais. La singularité. Et à nouveau, la question de l'éthique du sujet, voilà, elle est là.
Voilà, c'est peut-être ça, je trouve, que tu décris bien et que tu montres bien comment est-ce qu'on ne peut pas effectivement fonctionner complètement enfermé, et qu'on ne peut pas non plus fonctionner complètement coupé de la société, des politiques. Mais ça coûte cher, tout ça, monsieur. Hein, tout ce personnel, tout cette... Hein, et qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à un de nos représentants de tutelle qui te dirait ça?
Si c'est le directeur technique administratif qui parle.
Oui.
C'est pareil, que ça coûte pas plus cher que d'autres façons d'accompagner et soigner les personnes. Ça coûte pas plus cher. L'hôpital de jour, ici, je ne vais pas dire quel coût à la journée, mais c'est le même depuis une dizaine d'années. Et j'ai travaillé dans le médico-social et les coûts sont exactement les mêmes. Donc c'est pas vrai qu'il coûte plus cher. À mon avis, ce qui coûte cher, c'est ce que tu viens de dire à l'instant. C'est maintenir au vivant. Maintenir au vivant cette tension. Hein, cette tension qui n'est pas évacuée. Surtout pas. Ce malaise que j'appellerais... j'avais écrit là-dessus, le malaise suffisamment bon. C'est un malaise qui... Et c'est là où Toshkei, il y a 60 ans, il disait que ça ne peut pas être consensuel, parce que si tout le monde est d'accord, cette tension tombe, c'est cette tension que j'appellerais suffisamment bonne, à l'image de Winnicott, c'est-à-dire ni trop forte ni pas assez, parce que si c'est trop forte, on est dans la violence, on est dans quelque chose, ça devient inhumain, mais ce qui serait humain et humanisant, ça serait maintenir cette tension pour pouvoir constamment se différencier les uns des autres, et de sujet. Hein. Et c'est cette question-là, c'est ça qui coûte cher, dans le sens que c'est du travail et que c'est pas réglé, ça sera jamais réglé d'une fois pour toutes. Hein. Mais autrement, budgétairement, c'est pas vrai, un hôpital de jour ne coûte absolument pas plus cher qu'un institut médico-éducatif. C'est vrai qu'il y a 30 ans, ou même un peu plus, il y a les hôpitaux de jour, hein, enfants de 68, hein. Il y avait des moyens, hein, je me rappelle même en 77, à l'hôpital de jour d'Antony, il suffisait d'inventer un projet, et tel me donnait de l'argent pour le réaliser. Hein, comme c'était des lieux d'invention, hein, c'était plus cette question-là, c'était des lieux d'invention et ces inventions étaient subventionnées. Hein. Mais bon, depuis maintenant, au moins une bonne dizaine d'années, on va dire. Hein. C'est un autre coup. Hein,
Après, peut-être, ça dépend par rapport justement à quoi les comparent nos tutelles. Peut-être qu'ils les comparent aussi. Quand je disais ça aussi, je pensais un peu à des comparaisons qui peuvent être faites par rapport à des approches plus biologiques, par exemple, par rapport à la question du traitement, par rapport à la qui je dirais, va coûter par exemple moins cher en humain, en masse salariale. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'on nous pointe parfois.
C'est sûr que si on pouvait. Il y a toujours cette idée, c'est l'image très médicale, mais médicale dans le sens le plus, je pense, le plus bête de ce terme-là.
Bien sûr.
C'est-à-dire, si on pouvait avoir un médicament qui pouvait soigner, et enrayer et guérir, pas soigner, guérir, je pense que c'est un mythe humain qui est très très ancien. Il y a avant les labos qu'on a actuellement. Hein. Mais ça, on sait bien que ce n'est pas vrai. Bon, il y a un gros problème de comment financer. On tombe dans cette question, comme il disait. Roger Mises, peu de temps, à peine un an avant qu'il meure, hein, disant, fin des comptes, toute sa vie, avait réfléchi à la question de comment rester humain dans cette place qu'il a occupée pendant des longues années de soignant. Hein. C'est bien entendu que là, on n'est pas du tout dans le registre de l'humain. Donc, les autres techniques dites modernes, innovantes, elle coûte pas moins cher. Hein, elle coûte pas moins cher parce que c'est de l'humain qui l'a accompagné d'autres humains, même si c'est dans un cadre qui n'est pas le nôtre, mais ça, peu importe, c'est pas la question. Qu'est-ce qu'ils vont devenir les enfants qui sont ici, et leur famille On peut voir un peu ce que ça pourrait aussi coûter socialement.
Voilà, ça,
en tout cas, la question de l'éthique, c'est pas une question de pays riches. L'éthique n'est pas une question. Avoir une éthique du soin, elle ne coûte pas plus cher que pas en avoir. Le soin dont on en parle, souvent, c'est quand les gens disent voilà, oh votre travail, c'est un sacerdoce, c'est le mot, hein, ou une vocation. Ils disent pas du tout. C'est un travail, on ne peut pas plus technique. Hein. C'est vraiment du soin. Et en plus, ces travail-là, c'est peut-être important que tu m'aies posé cette question, mais nous, on travaille avec tous les hôpitaux autour. On travaille avec des généticiens. On travaille avec des neurologues, on travaille à l'hôpital Sainte-Anne, à l'hôpital Necker. La psychologie institutionnelle a été pensée et fondée par des médecins psychiatres. On a l'impression que c'était des philosophes, des poètes ou des artistes. Non. Hein, c'était Henriet. On ne peut pas être plus psychiatre qu'Henriet. Hein, c'était le secrétaire national du syndicat de psychiatrie à l'époque. Hein. Mais c'était, il n'y avait qu'une vision de la psychiatrie, de la médecine qui était tout autre. Et ce qui est scientifique, de la science. C'est pour ça que c'est important, la psychothérapie institutionnelle n'est pas de l'antipsychiatrie. C'est autre chose. Hein? C'est-à-dire, au contraire, c'était la psychothérapie institutionnelle pour une psychiatrie qui est très mise à mal depuis pas mal d'années. Hein? Je pense que on parle de moins en moins de psychiatrie au profit de santé mentale et de tout ce, hein, c'est cette question-là, c'est une certaine vision du médical et du médecin et du scientifique. Et je pense que le médecin, c'est pour ça que je tiens énormément à dire, ici à l'EPI, mais dans la psychothérapie institutionnelle en général, c'est pas du tout de l'antipsychiatrie. Hein, c'est toute une façon de voir l'être humain qui est importante pour nous qui sont bien portants, mais qui est vitale, je vous disais tout à l'heure, pour les personnes qu'on reçoit. C'est-à-dire que ce qui pour nous, à la limite, ça peut être une option. Hein. À un moment donné, on peut être de tel ou tel mouvement, on peut changer l'école de psychanalyse, on peut militer dans tel parti, dans tel autre. On est suffisamment construit pour pouvoir passer d'un mouvement à un autre et évoluer comme ça. Mais la psychothérapie institutionnelle nous dit les personnes qu'on accueille pour eux. Le fait d'être dans un réseau de soins, mais un réseau social, entre humains. Même Michel Soulet, pourtant Michel Soulet, notre fondateur, n'était pas un révolutionnaire Freud au marxiste, je ne sais pas quoi, on est bien d'accord là-dessus, ouais. Mais il disait, pour un enfant psychotique, sa sortie, comme du labyrinthe, se par l'eau. Ouais. Et l'eau du labyrinthe, c'est la culture. L'accès à la culture. C'est-à-dire que lui, cet enfant psychotique, plus que n'importe quel autre enfant, a besoin d'avoir un accès à la culture. La culture, c'est son histoire. Hein, c'est des conseils comme un citoyen. Ben, voilà. C'est-à-dire que. Et je pense que c'était un vrai médecin, Michel Soulet.
Oui.
Hein? Donc c'est important de dire que ce n'est pas la question du médical.
Hein? C'est ça, voilà.
C'est voilà, quand Pierre Deligaud le raconte, c'est Tosquelius qui lui avait dit, écoute, tu veux t'intéresser aux enfants, va voir Michel Soulet, paraît-il, c'était dans les années 60, va voir Michel Soulet, paraît-il, qui fait des choses intéressantes avec les enfants. Hein? Voilà, c'est donc c'était les médecins qui adressaient d'autres médecins vers d'autres médecins. Ouais. Donc c'est, ça me paraît important, on est, il y a la psychiatrie institutionnelle n'a aucune guerre de libération à mener à l'égard de la médecine.
C'est ce n'est pas magique, ce n'est pas.
Mais c'est contre une certaine idée de ce qui est scientifique et de ce qui est l'aliénation et de ce que c'est avoir une souffrance grave psychique. C'est ça qui me paraît important. Et là-dessus, il n'y a pas de. Quel que soit, on ne demande pas mieux. Dans les hôpitaux comme où il y a la psychothérapie institutionnelle, on inclut les. Si demain les neurosciences, tout un système pour améliorer certains symptômes qui font énormément souffrir les enfants de l'hôpital de jour, on va être ravis. On ne va pas dire.
On n'est pas dans l'exclusion.
On n'est pas dans le dogmatique, on n'est pas dans l'exclusion.
Au contraire. Mais par contre, de réduire un enfant à un cerveau, il y a quelques images d'IRM, nous là on n'est pas d'accord. Vous voyez, et c'est pas qu'on n'est pas d'accord avec le médical. Ça me paraît important, hein, parce que c'est pas des luttes d'arrière-garde, anarcho, je ne sais pas quoi, vous voyez, c'est un raccourci incroyable. C'est vraiment. C'est une vision de l'humain, du sujet, de l'être humain, et que là-dessus est la différence entre établissement, institution, entre la loi juridique et la loi symbolique. C'est-à-dire que juridiquement, bien sûr, qu'il y a des différences juridiques importantes, il y a des responsabilités, mais symboliquement, dans une réunion institutionnelle, symboliquement, je dis bien symboliquement, pas juridiquement, mais la responsabilité, symboliquement, un enfant peut questionner le médecin directeur, et la cuisinière qui est là peut dire quelque chose, il y a un autre enfant peut dire autre chose, et ça ne veut pas dire que c'est là que ça va être les responsabilités hôpital du jour, c'est pas, mais là, symboliquement, toutes ces personnes-là sont sujets, et on ne peut pas être plus sujet ou moins sujet, on l'est ou on ne l'est pas.